Anne Boesflug, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente et directrice de Jazz Lab, association jazz à Arras. Alors Jazz Lab, c'est quoi ? C'est une école de musique, des ateliers, de l'éveil musical, du théâtre et de la danse. C'est tout ça, Jazz Lab ?
Alors en fait, il faut malheureusement maintenant retirer la danse parce qu'on a fait ça. C'était une volonté de rajouter la danse, un petit peu comme les conservatoires ont les trois esthétiques. Et finalement, l'enseignante qui était disposée à le faire a quitté l'association. Donc, il faut qu'on retire la danse, mais on y reviendra, c'est sûr, parce qu'on a tous l'impression que ça fait partie intégrante d'une formation artistique complète, et en tout cas, ça permettrait d'offrir quelque chose qui serait bien large. Donc, pour le moment, pas de danse. Par contre, effectivement, du travail d'instrument, de l'éveil musical pour les petits-enfants, très jeunes même, du théâtre pour tous les âges, et surtout des pratiques collectives. Un point auquel on est très, très attaché, parce qu'il est... fait partie prenante de la musique qu'on défend, en fait. La musique, on n'est pas une école de jazz, c'est sûr, mais la musique, chez nous, ne s'entend que collectivement.
Alors justement, est-ce qu'il y a une patte Jazz Lab ? Est-ce qu'il y a une manière d'enseigner ? Qu'est-ce qui fait un petit peu le lien entre les différents cours ou espaces d'expression que vous proposez ?
Oui, je comprends votre question. En fait, la base... Le lien, le fil conducteur, si je puis dire, il tient dans une charte pédagogique que nos enseignants acceptent, en fait, avant de reconnaître et acceptent et évidemment utilisent, mettent en place dans leur travail d'enseignant. C'est-à-dire qu'on conçoit la musique comme ça prenant de l'intérieur. C'est-à-dire que tout élève qui arrive chez nous, quel que soit son âge, son niveau, il est mis à l'instrument directement, même s'il est absolument débutant. Il n'y a pas une théorie qui précéderait la pratique. Tout ce travail à partir de la pratique, comme un entraînement orienté en quelque sorte. Ça, c'est le fil conducteur. Donc de la théorie, bien sûr, il y en a. Souvent, on croit qu'on ne fait pas du tout de solfège, mais c'est faux. Tous nos enseignants sont aptes à enseigner le solfège, évidemment. Certains sont même particulièrement diplômés. Mais le solfège n'arrivera que par la bande, après la pratique et d'une certaine façon à la demande de l'élève. Quand l'élève aura une question technique, les enseignants, évidemment, y répondront. Et c'est dans ces cas-là que la réponse est la plus profitable.
Quelque part, c'est une alternative au conservatoire. Ça fait un peu aussi, c'est un peu aussi un des intérêts d'adhérer à votre association. C'est voilà, de commencer directement sans avoir à commencer par plusieurs années de solfège,
oui,
sans un
ça.
Peu cette, mmh. cette contrainte, ce côté scolaire quand même des
Tout
conservatoires. Alors,
bon,
je sais que Jazz Lab, ils n'ont pas pour habitude de dire du mal du conservatoire et c'est pas du tout
le
but.
Ah non, pas du tout, on est partenaire.
Mais il y a le côté
un peu
alternatif quand même.
Oui, on est partenaire avec le conservatoire sur certains points, mais c'est effectivement l'accès, l'approche de la façon d'enseigner finalement est différente parce que non seulement le conservatoire fait commencer par du solfège, mais en plus conditionne la pratique de l'instrument à un certain niveau de solfège qu'il faut absolument acquérir et on leur donne en plus l'impression que s'ils n'ont pas ce solfège, ils ne joueront pas bien. Et en fait, à Jazz Lab, on déconstruit un petit peu ce regard et cette approche dans la mesure où on commence de toute façon par la pratique parce que le plus important chez nous, c'est le plaisir, c'est avoir du plaisir à jouer. Et c'est difficile pour un petit enfant, par exemple, de se motiver à faire du solfège, de la théorie, quelque chose de rigide, en fait, en quelque sorte, un peu comme la grammaire à l'école, même si j'adore la grammaire. C'est difficile pour un petit enfant de se motiver à faire des choses qu'il ne peut pas immédiatement mettre en œuvre avec sa pratique. Donc on commence par la pratique. Et l'expérience montre que commencer par la pratique, ben ça permet pour l'élève d'avoir tout de suite le plaisir de tirer un son de son instrument, quel que soit l'instrument, que ça soit à cordes, que ça soit un piano, que ça soit chanté. Ça lui permet tout de suite de voir qu'il est capable de produire quelque chose, même sans maîtriser la théorie. Et au fur et à mesure du plaisir qui grimpe et de sa pratique, de ses entraînements, parce que finalement ce sont des entraînements, au fur et à mesure, il devient lui-même demandeur d'une théorie. Donc on n'est pas du tout opposé à ce que fait le conservatoire, mais on propose une autre approche. Et pour être tout à fait honnête, je vous dirais que cette approche qu'on propose ne convient pas à tout le monde. On a parfois des élèves qui nous quittent pour aller vers une pratique plus classique, plus traditionnelle.
Alors pour donner une idée aux auditeurs, aux auditrices, ça représente combien d'élèves, combien de professeurs Jazz Lab ?
Alors Jazz Lab, maintenant on est à 9 enseignants, aucun d'entre eux n'est à temps plein, bien sûr, c'est rare, professeur à temps plein hors conservatoire. On a des disciplines qui sont doublées, par exemple deux professeurs de chant, ce qui a énormément de demandes pour le chant. En plus, il s'avère que ce sont deux enseignantes qui sont toutes les deux très compétentes, mais qui ont une petite particularité. Donc Daphné qui est plus axée musique moderne et Susanna qui est professeure de violon et de chant jazz. Donc c'est deux approches de la musique qui se complètent bien. Et on a aussi deux professeurs de piano qui sont parfaits exemples de ce que je vous expliquais avant. Donc Pierrick qui est très axé musique moderne pour l'oralité, pour la pratique, pour l'écoute, pour le quelque chose de, j'ai envie de dire moderne, mais c'est pas tout à fait juste. Et Valérie qui est plus traditionnelle avec des partitions, qui va très très bien avec les débutants, les jeunes enfants, ceux qui ont besoin d'une approche classique, le temps de se faire confiance. Et ce qui montre que c'est vraiment complémentaire, c'est qu'on a des élèves qui vont chez les deux enseignants. Un cours avec Valérie, un cours avec Pierrick. C'est bien la preuve qu'ils sentent la complémentarité de cette façon de travailler.
Et au niveau du nombre d'élèves alors ?
Alors en fait, au niveau du nombre d'élèves, on en a... C'est difficile à dire parce que je compte... Il y a des élèves qui font trois instruments, par exemple. Un atelier de ceci, un cours de piano, un cours de musique. Bah, quelque part, ça représente autant d'heures de cours. Donc si je compte en heures de cours données, on a un peu plus de 220 élèves. Ce qui est...
C'est pas mal.
Ouais, c'est une belle progression.
Ouais, au niveau des lieux de répétition, des lieux de pratique, comment ça se passe alors pour Jazz Lab ?
Eh ben, ça se complique parce que plus on a d'élèves, plus il faut trouver de la place pour les accueillir, d'autant plus que beaucoup de cours se passent en même temps, notamment le mercredi qui est très engorgé, le samedi aussi qui est bien rempli. Donc on avait à la base une salle au conservatoire qu'on a toujours depuis 2017. On a eu notre ancien président justement qui nous a proposé à la location une partie d'un bâtiment qui lui appartenait. Et le mercredi, il y a quatre salles dans son bâtiment, c'est pas sa maison d'habitation, c'est son bâtiment. Dans son bâtiment, quatre salles sont occupées le mercredi et deux le samedi. Donc on jongle avec ça comme on peut. Et le théâtre, par contre, qui nécessite plus de place, plus d'espace en hauteur, en largeur, etc. Le théâtre, on loue une salle à la maison diocésaine. Et parfois, quand on a des couacs, parce que l'un ou l'autre établissement est fermé, on a aussi la possibilité d'avoir une salle exceptionnellement en plus au conservatoire ou à l'office culturel. Alors moi, le rêve de ma vie, c'est d'avoir un grand bâtiment rien que pour nous. Un peu, d'ailleurs, si quelqu'un m'écoute et qu'il a ça, eh bien qu'il m'appelle. Je pense par exemple à une école désaffectée comme fait le Tirlaine à Lille. Je ne sais pas si vous connaissez oui. Le Tirlaine. Voilà, eux, c'est merveilleux ce qu'ils ont, quoi, une ancienne école. Donc, il y a la cour pour faire des spectacles, il y a des salles partout, il y a une grande pièce de réunion. Ça, vraiment, c'est mon rêve à Arras. Je l'ai déjà dit souvent à M. Malfait. Il a bien entendu, donc voilà, ça serait merveilleux.
La difficulté, peut-être pour les pouvoirs publics, comme ça se passe dans d'autres villes, c'est qu'ils doivent financer un conservatoire, et puis il y a des associations musicales alternatives qui se développent. Est-ce qu'il y a les financements pour aider les deux associations ? Comment ça se passe un petit peu le financement associatif par la mairie, par la collectivité de votre association, vous ? Alors, est-ce que vous êtes aidé ?
Oui, alors on est aidé. Mais il faut savoir, j'imagine que je ne vous étonnerai pas en disant ça, les subventions ne vont jamais de soi, c'est toujours un long dossier à refaire, à étayer d'exemples en fait, parce que c'est bien gentil de dire il faut nous aider, mais encore faut-il montrer qu'on fait une œuvre utile, qu'on sert à quelque chose, qu'on nourrit la collectivité. Donc les dossiers, on est aidé, oui, on est aidé par la mairie, un petit peu à la fois, ça la confiance est installée. On est aidé par le département aussi qui nous soutient beaucoup parce qu'on a des axes de travail qui rentrent dans les plans du département, notamment l'inclusion. L'inclusion qui a une place très importante finalement dans notre enseignement, peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler après. On est aidé par le département et par la mairie d'Arras tous les ans, d'une façon régulière, même si bien sûr, comme vous le savez, les données culturelles ont pris un petit coup. Mais bon, pour le moment, ça tient. Et après, on lance des appels aux subventionneurs. J'ai écrit à la DRAC pour la première fois. Je n'ai pas encore de réponse. Je sais que le dossier est à l'étude. Il est possible qu'on ait une réponse favorable. Notre ancien propriétaire aussi nous a apporté beaucoup de mécénat parce qu'il était du monde de l'entreprise. Et on l'en remercie beaucoup. Et j'essaie toujours par petites touches d'aller chercher des aides privées parce que finalement, c'est peut-être plus facile d'aller toucher les entreprises que les collectivités, je ne sais pas. Sinon, on vit exclusivement de nos élèves qui paient les cours.
Autre aspect important de la vie associative, vous l'avez dit, vous êtes à la fois présidente et directrice. Comment s'est passée cette situation? Est-ce que c'est aussi, on en parlait un petit peu avant pour préparer cette interview, est-ce que c'est aussi du fait que l'association grandit et est plus difficile à gérer au niveau associatif bénévole, quoi?
Oui, ça devient difficile parce qu'en fait, on est un petit peu à la croisée des chemins entre la petite association qu'on était au début, il faut bien le dire, où on avait, je pense, 27 élèves et puis 3 profs et une salle dans une cave non chauffée. Ça, c'était nos débuts en 2017. Et puis maintenant, c'est presque une petite entreprise, en fait. Donc, il y a une charge de travail administratif qui est importante. S'ajoute à ça le suivi de tous ces élèves qui doivent payer leurs cours. Encore faut-il noter qu'ils l'ont eu et où et quand. Personne n'est ici à Arras toute la semaine. Moi, encore moins que les autres, vu que j'habite la Belgique. Et j'ai un travail à temps plein à Valenciennes. Donc, c'est difficile. Donc, on a appris à piloter à distance, en fait. Et ça, je remercie infiniment l'équipe d'enseignantes. Ils sont très compréhensifs. Ils jouent vraiment le jeu. On a appris à piloter à distance. Et on n'a pas attendu le Covid pour savoir le faire, parce qu'on n'avait pas d'autre solution. Sauf que ça continue à grandir. Et je ne sais pas combien de temps on pourra comme ça continuer en comptant sur la bonne volonté des gens, sur le fait qu'ils n'oublient pas, sur les bénévoles qui nous entourent, qui restent, ils sont charmants, très dévoués, mais jusque quand peut-on fonctionner avec des bénévoles? Ça, c'est une question, c'est un petit peu un problème qu'on voit venir et qu'on ne regarde pas pour le moment, mais tôt ou tard, il faudra le regarder en face et le résoudre.
Vous, comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette association? Parce que vous disiez que vous habitez en Belgique, vous travaillez à Valenciennes, c'est quand même pas la porte à côté.
Non, ça fait un parfait triangle de 75 km. Et en fait, j'ai travaillé pour Couleur Jazz, je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, bien sûr.
Couleur Jazz, l'ancienne association. J'étais arrivée là par le Festival Jazz en Or, qui faisait sa finale de tremplin à Arras. C'est comme ça que je suis venue, puisque je m'occupais du tremplin à Jazz en Or. J'ai connu l'équipe de Couleur Jazz et j'ai trouvé ça super chouette. J'ai travaillé avec eux et puis il y a eu des dissensions. Ils m'ont demandé de partir parce que je ne sais pas. C'est peut-être pas le sujet du jour, je dirais.
Mais
en tout cas,
pas.
En fait, c'est un petit peu un autre exemple antérieur à ce que j'essaie de vous expliquer. En fait, l'association Couleur Jazz a grossi. Et puis, il y a eu des dissensions, comme il y en a toujours. Ce sont des mots de croissance, vraiment ce que j'appelle des mots de croissance, MAUX, bien sûr. Et l'association Couleur Jazz a eu l'impression qu'on se professionnalisait trop vite ou trop mal ou pas comme ils voulaient, ou je ne sais pas quoi. Donc, ils m'ont demandé de m'en aller, ce que j'ai fait. Et puis après, ils ont déposé le bilan assez rapidement parce que c'est une association qui avait besoin d'être structurée et tenue et n'était pas capable de le faire. Donc, cette association s'est arrêtée en 2015 et 3 des enseignants m'ont téléphoné, notamment Pierrick, un des profs de piano, qui m'a téléphoné en disant « Écoute, il n'y a plus rien, est-ce qu'on ne recommencerait pas quelque chose ?» C'est comme ça que je suis revenue en 2017 et on est reparti de zéro avec 3 enseignants qui étaient encore là. Et je vous dis peut-être 27, 28, je ne sais plus exactement, un très petit nombre, 27 élèves qui dataient de Couleur Jazz et puis qui voulaient bien redémarrer avec nous. Et on a passé le Covid. Ça, c'était un signe de bonne santé et puis d'une organisation qui se tenait. C'était quelque chose de structuré, sinon on ne serait jamais passé au-dessus.
Suite de notre entretien avec Anne Boesflug, présidente et directrice de l'association arageoise Jazz Lab. Alors, début juin, vous organisez la 4e édition du Jazz Lab Festival. D'abord, un mot sur la démarche du festival. Pourquoi un festival? Et puis, dans quelle idée vous organisez ce festival?
Alors, en fait, c'est une idée qu'on a toujours eue dans un coin de la tête. Mais évidemment, en 2017, avec 27 élèves, une salle et 0 euro de subvention, c'était même pas la peine d'y penser. Ensuite, il y a eu les années Covid. Et on faisait, entre 2018 et 2019, on l'a fait 2 fois, on faisait une fête de restitution de nos élèves qui se passait à l'hôtel de Guines. Et on avait toujours dans un coin de la tête de lier ça à... Festival, c'était un grand mot, mais allier les restitutions de nos élèves à des concerts de professionnels avec toujours ce fil très solide, bien que discret, qu'un artiste, c'est toujours un ancien élève, en fait. C'est toujours quelqu'un qui un jour était un petit garçon, qui avait envie d'eux, et puis qui a fini par le faire et par réussir. Ça, c'était dans un coin de notre tête, mais on avait conscience qu'on n'avait pas les reins assez solides pour organiser quelque chose de prestigieux. Et on a attendu, on a joué la patience. Mais Arras a toujours eu un festival de jazz. Il y a une tradition de jazz à Arras, en fait. Je pense à Jazz en Artois. Je n'ai pas connu personnellement, mais je sais que c'était quelque chose qui a tourné très fort. Couleur Jazz a fait des festivals de jazz. Je sais parce que j'ai participé aux deux derniers. Donc, il y avait une tradition et on avait envie de la faire repartir. Et M. Malfait trouvait ça une bonne idée. Il nous y encourageait, il nous y poussait. On a attendu, on a été patient. On a commencé en 2000, donc après le Covid, 2022, je pense, avec juste un concert, donc ça durait 2 jours, il y avait un concert. L'année d'après, il y avait 2 concerts, 3, 4. Et puis bon, bah maintenant, on essaye de faire ça sur 4-5 jours avec une philosophie donc, qui consiste à mélanger les concerts et les restitutions. Parce que finalement, c'est la même chose. C'est juste l'échelle qui est différente. On essaie de le mêler parce que la philosophie est de jouer de la musique ensemble, qu'on soit spectateur et qu'on participe, qu'on soit un élève, qu'on soit dans un atelier, qu'on soit le public qui se rend compte d'un travail qui a été fait. Finalement, c'est toujours peu ou prou la même démarche. C'est ça qui nous y pousse.
Avec une philosophie, avec un thème aussi cette année ?
Oui, cette année, franchement, on a décidé de mettre une thématique et de reproduire ça tous les ans. Après, c'était difficile de mettre une thématique quand on n'avait qu'un seul concert, c'est certain. Maintenant, c'est vraiment un fil qu'on veut suivre. Et donc, on a défini une thématique autour d'un groupe qu'on connaissait, qu'on avait beaucoup aimé, parce qu'on a eu la chance déjà de les voir au mois de septembre. Et on a construit une thématique autour d'eux.
Ce groupe, c'est Azawan ?
Azawan, oui. Azawan. Donc, on partait sur une thématique de musique du Maghreb, de l'Orient. Enfin, l'Orient, c'est un grand mot, évidemment. Il faut faire attention quand on dit Orient, parce que ça représente beaucoup de choses. Mais Azawan, qui présente une musique de jazz et de shaabi, donc une musique algérienne, kabyle, ça partait vers une thématique de l'Afrique du Nord. Et donc, on est parti sur cette thématique-là, de la rencontre du jazz avec les musiques du Nord de l'Afrique et du Moyen-Orient.
Longue histoire entre le jazz et les musiques... nord-africaine, ça nous ramène aussi au jazz des années 60 où il y a plein de jazzmen qui ont fait ces voyages, qui ont ramené de la musique, qui ont fait beaucoup d'échanges avec des musiciens là-bas.
Oui, tout à fait. Alors je compte Martin Guerpin, donc, qui est le parrain de notre édition, parce que tous les ans on aime bien choisir un musicien qui est un petit peu représentatif de ce qui va se passer, qui est souvent le chef du projet principal. Et donc Martin nous a proposé de faire une conférence sur le sujet à la médiathèque d'Arras. Je pense que ça va être passionnant. Et évidemment, je n'ai pas envie de déflorer, d'autant plus que je ne sais pas dans le détail comment il présente les choses. Et il le fera bien mieux que moi. Et oui, effectivement, il compte présenter au public comment ce lien a pu s'installer, comment la rencontre a pu se faire et comment les deux musiques, finalement, se nourrissent l'une de l'autre. Donc, je pense qu'il a présenté des instruments, des petits morceaux de musique. Et puis, il introduira mieux que personne, mieux que je ne pourrais le faire, bien sûr, le concert du 7 juin.
Alors cette conférence de Martin Guerpin, attention hein, parce qu'elle était prévue le mercredi 4 juin, finalement ça sera une semaine plus tôt, donc le mercredi 28 mai, si je ne dis pas de bêtises, donc toujours à l'hôtel de Guy.
Non, pas du tout. Ça n'a jamais été à l'hôtel de Guy. C'est à la médiathèque. C'est un partenariat avec la médiathèque, justement, avec qui on a d'excellentes relations. Ils nous ont demandé je leur ai demandé, c'est moi qui leur ai demandé, s'ils pouvaient accueillir la conférence. Ils étaient ravis, donc ils ont tout prévu, la salle, je ne sais pas quoi, le matériel qu'il fallait. Et le jour a changé parce que Martin s'est rendu compte qu'il ne serait pas revenu à temps d'Angleterre, je ne sais pas où il était ce jour-là. Donc on a mis 8 jours avant, et au final, ce n'est pas plus mal, ça fait un peu apéritif en fait, une façon de donner le goût, parce que j'imagine, bien qu'il soit, ça soit quelqu'un d'extrêmement cultivé, j'imagine qu'il saura bien sûr montrer au public que ça peut être merveilleusement accessible à tout le monde. Donc je crois qu'on a tous, on aura tous un très bel avant-goût de ce que ça sera et de ce qu'on peut entendre avec Azawan, oui.
Donc le 28 mai, 18h30 à la médiathèque du Palais Saint-Va. Le festival en lui-même, c'est du 4 au 8 juin. Ça se passe à l'hôtel de Guine, notamment le mercredi, le premier jour, avec ce que vous avez appelé des open cours, hein, c'est des portes ouvertes des cours. Comment ça va se passer un petit peu?
Mais en fait, c'est quelque chose qu'on a fait l'année dernière pour la première fois et ça s'est si bien passé qu'on a décidé qu'on le referait tous les ans. et que ça tiendrait lieu de porte ouverte. En fait, je vous disais tout à l'heure que le mercredi est le jour le plus chargé, ce qui est un petit peu logique. Ce jour-là, on a 7 enseignants qui travaillent, 8 même, 7 ou 8, enfin bon, il faudrait que... Peu importe, enfin beaucoup, ils sont presque tous là. Donc au lieu de les faire jouer chacun dans leur petit coin, comme ils font toujours, on les fait jouer à l'hôtel de Guines, chacun dans une salle différente. C'est pas évident parce que c'est très mal insonorisé, comme vous savez sans doute. Mais c'est un côté rigolo, c'est un côté conservatoire. Finalement, dans les vieux conservatoires, comme à Lille ou Tourcoing, on entend toujours le trombone d'à côté quand on veut faire de la flûte, quoi. Façon de parler. Donc ben, on se dit que c'était pas grave, c'était comme ça. Et on les fait jouer, donner leur cours, chacun dans une salle, porte ouverte. Donc tout le monde peut rentrer, écouter, regarder, pas déranger, bien sûr, c'est pas là pour poser des questions vraiment. Et ça permet déjà aux élèves de se familiariser avec le fait qu'un public peut être présent, peut écouter. Et puis surtout, c'est une merveilleuse plateforme de rencontre pour des parents qui ont envie de voir, qui se posent des questions. Et généralement, ce jour-là, on enregistre un nombre d'inscriptions incroyable. Donc ça s'est si bien passé l'année dernière qu'on a dit qu'on le refaisait, open cours.
Le jeudi 5 juin, release party de l'atelier multicolore. Oui. De quoi s'agit-il en fait ?
Alors l'atelier multicolore, c'est quelque chose de très émouvant, je trouve. C'était vraiment une volonté de s'ouvrir à tous. Et en fait, l'atelier multicolore qui existe depuis 2019, il réunit des élèves porteurs de handicap. Quand je dis un élève, il peut avoir n'importe quel âge. Il s'avère que c'est toujours des adultes dans cet atelier, mais c'est un hasard. Il réunit des élèves porteurs de handicap et des élèves valides. Mais bien sûr, c'est pas nous qui les choisissons. Les élèves valides, c'est parce qu'ils ont envie précisément de participer à cette inclusion d'une façon réelle. Alors, ça peut être n'importe quel type de handicap. Il se trouve pour le moment que c'est beaucoup des musiciens porteurs de trisomie. Et ils font vraiment de la musique. C'est ça qui est chouette. Donc, ils sont dirigés par Pascal Lauvergne, professeur de basse, qui fait ça très bien. Et ils font vraiment de la musique. Ce n'est pas de l'occupationnel, ce n'est pas un atelier, vous voyez, comme on pourrait imaginer. Ils font de la musique avec des morceaux que n'importe quel autre musicien de Jazz Lab pourrait aussi interpréter. Et donc là, ils ont enregistré, finalement, ça fait plusieurs années qu'ils travaillent ensemble et qu'ils ont un groupe, un noyau dur un petit peu fixe. Ils ont enregistré 2 ou 3 morceaux et ils vont le présenter, hein, un petit concert. Et ils seront soutenus, ça aussi c'est une très belle initiative je trouve, ils seront soutenus par des musiciens du conservatoire. Ils jouent ensemble toutes les semaines, on appelle l'atelier Flux, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce sont des musiciens généralement adolescents, encadrés par Monsieur Philippot, qui est professeur de MAO et de formation musicale au conservatoire. Donc Pascal et Jean-Baptiste Philippot travaillent à deux avec ce groupe Flux. Et ce groupe Flux a marqué son envie de jouer avec le multicolore. Donc ils les rejoignent sur le dernier morceau avec des cuivres, des arrangements, tout ça. Puis après, ils jouent eux-mêmes. Donc c'est vraiment l'inclusion comme on l'adore, en fait. Et c'est généralement très joyeux parce que c'est très émouvant déjà. Et puis c'est source de rire, de plaisanterie, de couacs, de choses qu'on n'attend pas. Il y a beaucoup d'imprévus. Et donc, ils présenteront leur disque, qui n'existera que de façon digitale, mais qui éventuellement un jour pourrait être gravé.
Le soir, donc toujours le jeudi 5 à l'hôtel de Guines, le concert du Jazz Lab Band. Donc là, c'est le groupe un peu des profs et aussi de certains élèves, le suivi de la jam, c'est ça. Le vendredi, chorale éphémère, animée par Daphné Dramé. Alors de quoi s'agit-il là ?
Alors Daphné est une de nos enseignantes de chant et en fait, elle a fait plusieurs stages dans Arras, notamment avec Damien Nison. L'association Balance ta voix, je crois. Donc elle a eu occasion de pratiquer le chant avec d'autres membres arageois et elle a eu l'idée d'organiser une chorale éphémère avec qui veut. D'ailleurs, il faudra que je profite d'être ici pour le dire. N'importe qui peut s'y inscrire, ça va durer 2 heures, je pense, autour d'un morceau qui est déjà défini avec des arrangements, des mélodies, une harmonie. Et à la fin, elle fera une petite restitution. Donc c'est juste éphémère, comme son nom l'indique. C'est autour d'un morceau qui est déjà fixé, et puis c'est destiné à montrer qu'on peut très vite obtenir quelque chose de très, très joli et très satisfaisant.
Le soir, le vendredi soir, donc concert du quintet Ahama. Une petite présentation peut-être de ce groupe
Oui, alors Ahama, c'est un groupe émergent, comme on dit, qui existe depuis 2023, je pense. Et ce sont des jeunes Lillois, enfin jeunes. Le pianiste est un petit peu plus âgé, mais globalement, ils sont très soudés. Ça fait pas... comment dire ? Ça fait pas transgénérationnel. C'est un groupe très émergent, j'entends par là qu'ils ont gagné beaucoup de choses tout d'un coup. Notamment le Golden Jazz Trophy, ils sont produits au Tourcoing Jazz Festival, ils étaient finalistes à Jazz à Vienne, donc ils ont joué au Sunset à Paris aussi. Donc c'est un groupe qui monte, qu'on voit beaucoup et qu'à mon avis on va voir de plus en plus parce qu'ils sont extrêmement brillants.
Donc un petit tarif, 7 euros pour oui. cette date du vendredi soir à l'hôtel de Guine. Là aussi ça se termine en jam, à chaque fois il y a un jam en fait, c'est dans
soirs.
La démarche.
Tous les soirs, et à la jam par définition, vient qui veut. Si les musiciens ne sont pas trop fatigués, ils nous ont promis de participer, le 6 comme le 7 d'ailleurs, on verra, s'ils y sont. Mais même s'ils n'y sont pas, la jam est un concept qu'on aime bien et à Arras généralement ça plaît.
Le samedi 7, donc le matin à 11h, concert des enfants, 16h, restitution des ateliers théâtre. Le soir, direction le théâtre d'Arras, en face, hein, pour le concert d'Azawan. Un petit mot quand même sur ce groupe
oui.
On a déjà vu au théâtre d'Arras,
ouais,
me semble-t-il.
Tout à fait. Ouais. Donc Azawan, c'est plus ancien. Ça, je pense que ça date de 2019, je crois. Et Azawan, c'est avant tout la réunion de deux personnages et de deux musiques. Donc Martin Guerpin, comme je vous disais, donc saxophoniste de jazz. Un érudit qui est musicologue et qui donne des cours à l'Université de Paris, je pense. Et Didine Kati, donc, qui est un musicien kabyle, je crois, ou je ne sais pas. En tout cas, spécialiste des musiques orientales, ça c'est sûr. Les deux étaient très amis et sont partis dans une exploration, une mise en parallèle, en abîme. Il l'expliquera bien mieux que moi. Ils se sont mis dans une exploration de la rencontre entre le jazz et le shabi, justement. Donc ils travaillent avec maintenant trois autres musiciens, c'est un quintet. Leur fil conducteur, c'est d'aimer le jazz, tous les cinq, mais avec un gros penchant vers les musiques, le langage des musiques orientales. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça véhicule? Un message fort, un message humaniste. Donc c'est bourré d'intentions, c'est chargé de références musicales que je serais bien en peine d'expliquer. C'est une musique très riche et d'un autre côté extrêmement envoûtante, très accessible finalement, une fois qu'on a accepté que c'était la rencontre de deux musiques. Ils sont passés à Arras au mois de septembre, il y a eu un très gros succès. Donc on s'est dit, après tout, pourquoi pas? Le succès peut bien être prolongé, comme si on prolongeait le plaisir.
Au Théâtre d'Arras, donc samedi 7 juin, petit tarif, 8 ou 10 euros la place, c'est pas cher.
Non, c'est pas cher. Alors en fait, c'est pas cher du tout, mais je crois que c'est le tarif qui a été pratiqué au mois de septembre. Donc dans la mesure où on reprenait le même groupe, on trouvait bizarre de tripler le prix. Alors je précise aussi, parce que c'est important, que ce groupe qui est pourtant avec des personnages très renommés, je pense au batteur Karim Ziad, qui est un musicien, qui est directeur du festival à Essaouira. Enfin vous voyez, c'est quelqu'un de qui est un petit peu plus âgé, je pense, que les autres. Et malgré tout, ils font une première partie avec des élèves du conservatoire et de Jazz Lab. Donc je trouve que j'aime beaucoup cette humilité. C'est un petit peu ce qu'on recherche dans notre festival, avec cette façon de mêler les restitutions très modestes de nos élèves avec des concerts de musiciens qui sont forcément beaucoup plus célèbres, beaucoup plus sûrs d'eux, beaucoup plus confiants. J'aime beaucoup ce mélange, ce partage en fait. J'aime beaucoup. Et je pense qu'on y tient tous dans notre association.
Dernier rendez-vous donc le dimanche 8 juin. Alors là, pareil, toute la journée, donc des concerts des élèves, des ateliers de Jazz Lab. À midi, donc à l'hôtel de Guine, il y aura ce concert apéritif avec l'ensemble Wasla.
Alors, il n'est pas certain que cet ensemble puisse venir, parce que entre le moment où on fait l'affiche, malheureusement, après, il y a des choses qui bougent un peu. On n'est pas tout à fait certain qu'il puisse être là. En tout cas, il y aura un apéritif qui restera dans cette thématique, de toute façon, ne serait-ce qu'avec nos enseignants qui sont capables, qui ont toujours, je pense à notre professeur Mathias, le professeur de guitare qui a toutes sortes d'instruments susceptibles, dont il est capable de jouer. Donc, à l'heure actuelle, je ne suis pas certaine du groupe qui animera l'apéritif, mais de toute façon, ça sera musical du début à la fin, et puis ça sera joyeux. Ça sera avant tout un moment de rencontre pour nos adhérents et de partage, vu qu'on les pousse un maximum à jouer ensemble.
Et enfin, les derniers invités, c'est de l'atelier de jazz de Carvin. Donc, j'imagine,
oui.
C'est un peu une école aussi de musique jazz à Carvin,
fait, tout à fait.
Qui vous partagerez un jam, c'est ça?
Sans doute. Je pense qu'ils vont venir avec leur je sais pas avec qui ils viennent en fait. C'est justement Mathias qui est de Carvin lui-même, donc il a joué longtemps avec eux. Et on a toujours été en bonne relation avec eux. Et on leur a proposé de venir lancer la jam, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils viennent jouer et puis après, on s'y rajoute. Donc ils viendront en fin de journée probablement, parce qu'à l'heure actuelle, c'est un peu difficile de savoir combien de nos élèves vont jouer. C'est quelque chose qui se bouscule au dernier moment, évidemment. Mais ils seront là sur la fin de la journée, effectivement. Et puis, ça fera une espèce de feu d'artifice final où on sera nombreux sur scène, je pense.
Anne Boesflug, merci. Et puis, on vous souhaite un bon festival, alors.
Je vous remercie beaucoup. Merci de m'avoir accueillie.
Anne Boesflug, présidente et directrice de l'association Jazz Lab. La 4e édition du festival Jazz Lab a lieu du 28 mai au 8 juin à Arras.